nos responsabilités et on avait quatre choses, hein, de confesser nos péchés, de laisser Dieu être celui qui nous examine, ensuite de bien vouloir nous repentir des péchés qu'il aimerait bien nous démontrer. Et on s'était dit, le troisième, ça doit être le plus important, celui de bien vouloir se soumettre à l'autorité du Saint-Esprit, de faire sa volonté, quelle qu'elle soit, et de ne pas remettre à plus tard, d'être obéissant, comme on avait terminé avec cette image, hein, comme un enfant de 5 ans envers ses parents, il ne laissait pas de marchander, il ne laissait pas de raisonner. Les parents disent, c'est l'heure d'aller au lit, tu vas au lit, etc. Et même s'il peut ne pas être content, il apprend à se soumettre à l'autorité. On s'est dit, certainement, et c'est vrai, c'est l'un des endroits où on a le plus de mal. On ne prend pas plaisir à ce que le Seigneur nous révèle nos péchés, on n'aime pas se voir de cette façon-là, mais c'est la réalité, on l'accepte pour ceux qui veulent grandir dans leur vie chrétienne. Mais de se soumettre régulièrement, quotidiennement, c'est dur. Après, on a vu, on avait commencé que avoir la foi, de croire que le Saint-Esprit fera son travail et de le remercier déjà en avance pour ce qu'il va faire pour nous chaque jour, c'est peut-être l'endroit le plus difficile. Et on avait partagé Romains 14, 22, 23, mais également on avait terminé, je crois, avec ces versets-là, où on voit des ordres, des choses que le Seigneur nous dit de faire, et souvent on regarde, ben, soyez toujours joyeux, et on peut prêcher, on l'a déjà fait toute une heure rien que sur ce verset, et du pourquoi et du comment, etc., ou de prier sans cesse, ça veut pas dire que je passe ma journée entière les yeux fermés en train de prier, etc., ou de chantonner comme un moine. Non, mais c'est d'avoir cette communion avec Dieu et cette relation personnelle. Mais on a vu que chaque chose qu'il nous dit, ce sont des ordres. Il dit, soyez toujours, priez sans cesse, rendez grâce, n'éteignez pas l'esprit. On verra ça, Dieu voulant, plus tard. Mais ce sont des choses qui sont également liées à notre foi. On ne peut pas faire ces choses de par notre propre force et notre propre volonté sans l'aide de Dieu et sans voir qu'on a des raisons à cause de qui Dieu est. Je ne suis pas toujours joyeux parce que je n'ai jamais de problème. Je ne suis pas toujours joyeux parce que tout va toujours bien. Je suis toujours joyeux, si ce n'est rien d'autre, à cause du salut que j'ai en Christ et à cause du Dieu que je sais, à cause de qui il est lui et que je sais que toute chose concourra au bien, même si maintenant ce par quoi je passe est difficile. Il va le faire pour que ça va me servir pour quelque chose d'utile et de bon pour moi. Je vais grandir à travers cela, je vais mûrir, je vais apprendre, je vais pouvoir peut-être être utilisé pour être un témoignage ou encourager quelqu'un d'autre. Il va faire, et donc ce par quoi je passe, le Seigneur m'aide dans sa grâce à être joyeux, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Et on a vu que ça, on ne peut pas le faire sans cette foi, sans croire et savoir qui Dieu est, et on avait vu pour chacune de ces choses. Mais aussi difficile, hein, que c'est que d'accepter de se soumettre à Dieu en toutes choses quotidiennement, malheureusement c'est quand même dans le domaine de la foi que je crois que la plupart des chrétiens perdent la bataille, dans le domaine de pouvoir être quotidiennement, régulièrement, rempli ou contrôlé par le Saint-Esprit. On va commencer à douter, on va mettre des messies là où Dieu nous dit « je veux que ». On va commencer à essayer de rationaliser, on va commencer à essayer de marchander au lieu d'obéir par la foi. Des chrétiens qui ont pris le temps de s'examiner, ils ont accepté de confesser, ils ont même accepté de se soumettre à l'autorité de Dieu et du Saint-Esprit. Et après avoir prié, l'une des premières choses qui se disent, j'espère que est l'ennemi de la foi. Combien de fois est-ce que nous voyons la foi être exprimée dans la Bible avec des termes tels que je sais, afin que vous sachiez, pour que vous ne doutiez point, être ferme, inébranlable, etc. Pas des « je prie et maintenant j'espère que Dieu fera comme il a promis ». J'espère, j'ai confessé, j'ai dit à Dieu dans la prière que je veux me soumettre, maintenant j'espère que le Saint-Esprit va me guider. Ce n'est pas la foi. Si je dis « j'espère que » pour des choses qui me concernent, ça se comprend. parce que je sais qui je suis, je sais combien je suis faillible et imparfait. Nos enfants, comme d'autres, ils ont une semaine d'examen. Ils vont dire, ben, j'espère que j'aurai une bonne note sur mon examen. Il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas par rapport à la foi. C'est par rapport à s'ils ont bien étudié, s'ils ont bien répondu. Mais quand je mise, j'espère Dieu, sur quelque chose que Dieu doit faire, que Dieu a promis qu'il fera, ben, ça, c'est l'ennemi de la foi. Et ça, on le fait très souvent. Dit, je veux, le désir est là. Je veux être soumis au Saint-Esprit. Donc, on a fait toutes les étapes avant comme on devrait. Et dès qu'on se relève, je ne me sens pas différent. Alors, j'espère que le Saint-Esprit va me... Je veux dire, j'espère que je suis rempli. Mais j'espère que le Saint-Esprit va me guider comme il a dit qu'il le fera. On met déjà la foi ou l'incrédulité à la place de la foi et on se met les bâtons dans les roues nous-mêmes. Parce que quand nous prions pour que le Seigneur nous guide et nous aide, ou on confesse nos péchés, et on se repent de ses péchés et on se soumet au Saint-Esprit, ben quand on a fini cette prière, on a un choix à faire quand on se relève de cette prière. Croire que le Saint-Esprit est bien présent, pas qu'il sera présent, mais qu'il est présent et qu'il remplit notre être entier, ou on peut faire le choix de douter de l'efficacité du Saint-Esprit. Ce qui va nous empêcher d'être joyeux et reconnaissants. On n'a pas besoin de ressentir quelque chose pour être convaincu que Dieu dit vrai. Et les chrétiens qui s'attachent à cela sont des chrétiens qui malheureusement ne grandissent pas dans la foi. J'ai besoin d'une preuve que. Une preuve que n'est pas la foi. Je n'ai pas besoin d'un ressenti parce que la parole de Dieu qui est, la Bible dit, esprit et vérité, ça me suffit. Quand la Bible déclare quelque chose d'une manière simple et claire et précise, je n'ai pas le droit de douter de ce que Dieu affirme dans sa parole. Ça me suffit. Je prie et je sais. On a eu tout un message dimanche où on sait, si je demande pardon, je confesse mes péchés devant Dieu, je sais qu'il me pardonne, je n'ai pas à me demander et à douter de cela. Il est très clair par rapport à cela. Toute autre chose, c'est de l'incrédulité. C'est donc le contraire de la foi, qui ne peut pas plaire à Dieu. La foi dans la parole de Dieu, ça doit être détachée de toute sensation et de toute émotion. Elle ne doit, dans le sens qu'elle ne doit pas dépendre de ses sensations, de ses émotions pour être présente. La parole de Dieu produira et influencera nos émotions et nos pensées, c'est vrai. Mais ce ne sont pas mes émotions qui me confirment la véracité de la parole de Dieu. C'est la personne de Dieu lui-même qui me confirme sa véracité. Il est la vérité. Il ne peut mentir. Si je ne peux pas croire, avoir la foi, que Dieu dit vrai, qu'il est la vérité, alors je ne peux pas lui faire confiance pour quoi que ce soit. Mais la Bible est vraie. Même si moi je ne ressens rien, mes émotions ne changent pas ce que la Bible est. Elle reste la parole de Dieu, parfaite, pure, digne de confiance, peu importe comment je me sens à l'état présent. Je peux donc prier avec foi pour que Dieu me montre tous mes péchés dans ma vie. Je peux les confesser par la foi. Je peux me soumettre par la foi à son autorité. Et je peux prier avec foi d'être entièrement rempli, contrôlé par le Saint-Esprit, et me relever de cette prière avec confiance et force. Parce que je sais, pas j'espère, mais je sais que Dieu fera toujours comme il a promis. En Tite, chapitre 1er, versets 1 et 2, nous dit Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. On pourrait parler de beaucoup de détails, de beaucoup de choses, de plusieurs choses qui sont dites dans ces deux versets, mais il termine ces affirmations comme des déclarations qu'on ne peut mettre en doute à cause de cette dernière phrase. Elle était promise par ce Dieu qui ne ment point. Si on ne peut pas croire cela, si on ne peut pas placer notre foi dans un Dieu qui ne ment point, que peut-être que parfois il va essayer de me tromper, que peut-être parfois il se trompe, que peut-être parfois Dieu va me mentir, je ne peux pas recevoir un salut d'un tel Dieu, encore moins quoi que ce soit d'autre. En 2 Timothée chapitre 2, versets 24 à 26, il dit « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner. » Et là, j'ai mis en rouge déjà certains qu'on avait vus, les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Doué de patience, fruit de l'esprit. Il doit redresser avec douceur, fruit de l'esprit, les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le résultat qu'ils désirent recevoir de nous, de ces personnes, de se soumettre à qui il est, à son autorité. Si vous... Et là, avec tout ce qu'on a vu sur quels sont les fruits de l'esprit, quels seraient les résultats qu'on peut s'attendre dans notre vie si on était vraiment rempli du Saint-Esprit d'une manière quotidienne? Voilà de quelle manière ces fruits vont se démontrer, se voir à travers notre vie. Et là, on a vu nos parts de la responsabilité pour pouvoir être rempli, pour pouvoir être contrôlé, soumis régulièrement. Et vous vous dites, non, moi j'ai quand même besoin de plus pour savoir comment être rempli du Saint-Esprit. Ben, ne vous en faites pas. Ayant vu ces quatre étapes pour nous aider, nous pouvons ajouter à cela encore une dernière chose. C'est tout simplement celui de marcher dans l'Esprit. Il y a plusieurs reprises à travers les Écritures, nous donne cette idée, c'est plus qu'une idée, c'est une réalité de comment le chrétien vit sa vie chrétienne. En Galates chapitre 5, verset 16 et ensuite verset 25, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et c'est intéressant, j'ai toujours trouvé, même quand j'étais enfant, j'ai toujours trouvé intéressant la manière que Dieu a utilisé cette image de marcher selon l'esprit. Et après nous avoir donné le fruit de l'esprit, verset 25 de ce même chapitre, il nous dit « Si nous vivons par l'esprit, encore une fois, marchons aussi selon l'Esprit. » Et nous avons déjà parlé du fait que l'ordre « Soyez remplis du Saint-Esprit » était un ordre donné dans un présent continu. Ceci est renforcé ici avec cette compréhension que nous devons marcher chaque instant de chaque jour selon l'Esprit. Ne jamais aller, ne jamais faire quoi que ce soit qui soit contraire à la volonté du Saint-Esprit. De marcher dans l'Esprit, si vous voulez, on peut dire que c'est d'être en parfaite communion avec le Saint-Esprit. Et donc d'être en parfaite communion avec Dieu. Et ça d'une manière continuelle, tout le temps. Et dès qu'on n'est plus dans cette communion, et vous savez qu'est-ce qui rompt cette communion? C'est notre péché. Et dès qu'on a connaissance de ce péché, on confesse, on se repent, on est restauré, on est de nouveau soumis. Par la foi, on accepte et on repart. Mais l'idée, c'est on marche, on marche, on marche, on marche. Je trébuche, j'ai failli, j'ai péché. Je confesse, je me relève, je continue à marcher. Je ne passe pas ma vie chrétienne par terre, plâtrée au sol parce que, à cause de mon péché. Mais c'est de vouloir marcher continuellement selon l'Esprit, avec le Seigneur, avec le Seigneur. Pas être contraire de lui, encore moins de lui tourner le dos pour aller vers le monde et vers le péché. Et même si on fait ça, on a comme l'exemple du... du fils prodigue, on peut toujours revenir au Père. Lui ne nous tourne pas le dos. Et c'est, oui, savoir cette... Je pense pouvoir dire avec certitude que de marcher selon l'Esprit, c'est synonyme avec demeurer en Christ. Parce qu'on a également ces versets qui nous parlent de cela à travers le Nouveau Testament, n'est-ce pas? De demeurer en Christ. On ne peut pas faire l'un en étant opposé à l'autre. Si je ne peux pas être en Christ et être opposé à marcher selon l'esprit. Je ne peux pas marcher selon l'esprit et être opposé en Christ. Les deux vont ensemble. Je demande à ce qu'on lise. Je ne l'ai pas mis parce qu'il y a 11 versets, Jean chapitre 15. Pendant qu'on lit ces 11 versets, Jean chapitre 15, verset 1 à 11, regardez combien de fois Dieu nous parle de demeurer en. D'accord? Avec le tout autour de la vérité de porter du fruit en plus. Jean chapitre 15, verset 1er, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous avez vu combien de fois ce mot demeurer en? 12 fois. 12 fois dans ces 11 versets. Et le tout autour de la vérité de porter du fruit. Si ce n'est rien d'autre, le fruit de l'esprit pour nous, dans le cas de notre étude, n'est-ce pas? Demeurer en Christ, marcher selon l'esprit. On ne peut pas séparer les deux, à mon avis. N'oublions pas et ne négligeons pas cette petite phrase à la fin du verset 5 qui dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On aime réduire un peu, dire, ah, mais c'est trop fort. On aime penser qu'on peut faire certaines choses. Mais dans le contexte, on est cette branche qui s'est détachée du sarment, qui commence déjà à sécher. Une branche séparée du sarment ne peut pas produire du fruit. Impossible. Le sarment, lui, il va pouvoir continuer. Il n'est pas dépendant de la branche, mais la branche est dépendante du sarment. Et c'est relisez ces 11 versets pour vous-même et dites-moi de quelle manière vous allez pouvoir espérer produire le moindre fruit en étant détaché de Christ. C'est impossible. Sans moi, vous ne pouvez pas porter ce fruit. Vous ne pouvez rien faire. On n'aime pas cela, mais c'est ce que la Bible déclare. Pour moi, cette phrase, elle est indissociable avec Éphésiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Littéralement, dans l'original, c'est je puis tout par Christ qui me fortifie. Le celui, c'est Christ dont il parle. Verset 16, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est évident que notre chair, de façon naturelle, de par sa nature, ne voudra pas marcher selon l'esprit. Il suffit de regarder autour de nous, il suffit de se rappeler comment nous étions avant d'être sauvés. Il est normal que notre chair n'a pas le désir de marcher selon l'esprit. Les désirs de notre chair seront toujours égoïstes, sont toujours orgueilleuses, elles sont toujours vaines pour un plaisir passager qui nous apporte ensuite des regrets. Si on se laisse faire, on se fera dominer, contrôler par notre chair. Et donc, on va se laisser dominer, contrôler par nos faiblesses. C'est celui qui se croit fort dans quelque domaine que ce soit, qui pense ne pas avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors que celui qui a l'humilité de reconnaître que sa force vient de Dieu, ben lui, il n'aura aucun problème à se soumettre. Et même vouloir, demander. Ce n'est même pas une question de, il faut que je fasse l'effort de me soumettre, mais c'est lui qui va volontairement aller dans la prière. C'est, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin que tu me guides, j'ai besoin que tu me relèves. Marcher selon l'Esprit, c'est un choix qu'on doit faire chaque jour. Est-ce que je vais suivre les penchants de ma chair? Est-ce que je vais me laisser guider par mes émotions? Est-ce que je vais suivre les tendances du monde, me croyant assez fort pour m'en sortir? Ou est-ce que je veux marcher vraiment selon l'Esprit, demeurer en Christ et volontairement être dépendant de Dieu pour m'aider aujourd'hui? On comprend donc que marcher selon l'Esprit, c'est un acte continu, volontaire. Et nous acceptons de nous laisser guider par le Saint-Esprit parce que lui va nous mener bien mieux de ce que notre chair va nous mener. Comme la brebis qui se laisse guider par son berger. Ne s'éloigne pas, ne questionne pas, ne résiste pas, va le suivre, va l'obéir avec joie parce qu'il a la foi que son berger lui veut du bien. Et le berger sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Notre responsabilité, franchement, elle est plus facile que la responsabilité que Dieu a envers nous. Pas que ce soit difficile pour lui, mais Dieu voulant. On regardera par la suite, hein, celui des mises en garde que nous avons de ne pas attrister le Saint-Esprit. Et ensuite, l'autre verset qui nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Et on verra pourquoi c'est spécifiquement marqué par la colère. Que c'est de cette façon-là qui est la façon prédominante que nous allons attrister le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça fait? Le résultat, qu'est-ce que ça en résulte? Entre autres, que ça nous empêche d'être remplis du Saint-Esprit, d'être contrôlés, soumis à lui. Et Dieu voulant, on verra ça la prochaine fois. Mais on peut se terminer là ce soir et nous laisser le temps d'avoir des commentaires ou questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et sinon, on terminera par un mot de prière. Pas de questions, pas de commentaires? Très bien. On va prier et on peut avoir un temps de communion avant de se quitter.